Bonsoir et bienvenue à la tribune de la presse ce vendredi 27 février 2009. Comme chaque semaine, nous ferons un retour sur quelques informations marquantes de cette semaine. Il s'agit notamment de la visite depuis hier jeudi en Bandaka, dans l'Équateur, du chef de l'État, Joseph Kabila, du départ du dernier soldat rwandais hier jeudi après les opérations conjointes menées avec les FARDC contre les FLR au Nord Kivu, enfin la démission cette semaine de quelques membres du bureau de l'Assemblée nationale, après que l'alliance de la majorité présidentielle ANP ait retiré sa confiance au bureau de cette institution. Je ne suis pas seul pour en parler, je suis avec trois confrères. Niro Mukwakalombo, journaliste correspondant de la radio-télévision Groupe L'Avenir, RTGA, en sigle, à Bandundu-Ville, capitale de la province du Bandundu. Victoire Eyobi, directeur de publication du magazine économique Entreprendre. Et Claude Molichokaïmbe, journaliste à la radio nationale RTNC, Kinshasa. C'est donc avec ces trois confrères que nous analyserons les trois thèmes que nous avons sélectionnés ce soir. Avant d'aborder notre premier thème, voyons comment les journaux quinois ont traité les trois faits d'actualité que nous analyserons ce soir, notamment la visite du chef de l'État en Bandaka dans l'Équateur, le départ hier jeudi du Nord Kivu du dernier soldat rwandais de la coalition ayant mené les opérations contre les FLR et la démission de quelques membres du bureau de l'Assemblée nationale. Tout cela avec notre consoeur Kelly Mkoute.
Ouvrant sa prévue de presse par l'arrivée hier jeudi du président de la République, Joseph Kabila, à Mbandaka dans la province de l'Équateur. L'avenir fait savoir que Joseph Kabila est à Mbandaka depuis hier. La visite devra réconforter les victimes de l'ouragan qui s'était abattu voilà quelques semaines. En rapport avec cette visite de compassion, l'Observatoire rappelle les mémos adressés au chef de l'État par les parlementaires de l'Équateur, désireux, comme l'indique aussi le palmarès, d'en savoir davantage sur l'affaire Bemba et les arrestations arbitraires des unitaires de cette province. Sur le plan sécuritaire, à la une, cette semaine de journaux à Kinshasa, la fin des opérations conjointes militaires rwando-congolaises. L'avenir fait état de la fin effective des opérations conjointes. Le journal note que le bilan de ces opérations est plus que positif, car au-delà des chiffres écrits le journal, il y a cette conscience indéchiffrable retrouvée entre Kinshasa et Kigali. 1500 soldats rwandais de l'opération conjointe sont rentrés mercredi au Rwanda par la porte de Goma, rapporte le Phare. Mais combien donc étaient-ils au total, sont heureux ce quotidien. Le journal ouvre note pour sa part qu'après le départ des troupes rwandaises, il faudrait consolider l'important acquis de paix en veillant à ce que les résidus FDLR éparpillés à travers les forêts ne puissent se reconstituer et renouer avec la logique militaire. Selon le palmarès, dans un entretien téléphonique avant le 25 février, Kagame a sincèrement remercié Kabila pour avoir sauvé le Rwanda et pacifié le Kivu. Terminons ce journal de journaux par la démission à l'Assemblée nationale de quelques membres du bureau. Au Parlement, notre observateur, après le départ de Lutundula et Kalaba, le reste du bureau de l'Assemblée nationale demeure solidaire de Kamere. Mais en dépit de la crise dans l'ANP, Vital Kamere refuse de démissionner, renseigne le même journal. À ce sujet, la référence plus précise que la démission des autres membres du bureau n'a aucune prise sur Kamere, aucune disposition constitutionnelle et réglementaire ne le contraint à suivre les démissionnaires. Aussi, le journal pense-t-il que l'ANP doit nous dire la vérité. Le Phare, quant à lui, fait état d'une ambiance de plus en plus invivable à l'Assemblée nationale, avec des grosses pressions sur le bureau. Bonsoir.
Merci beaucoup, Kelly Mkoute. Juste un petit commentaire avant d'entrer dans le fond de ces trois thèmes. Juste en deux phrases. D'abord, avec vous, Victoire Eyobi, je rappelle que vous êtes directeur de publication du magazine économique Entreprendre.
Tous ces événements montrent qu'il y a une récomposition qui est en train de prendre place. C'est-à-dire, d'ici là, nous allons assister à un nouveau paysage, tant sur le plan politique, social qu'économique dans notre pays.
Voilà, Claude Molichokaïmbe, bonsoir.
Bonsoir Claude, bonjour.
Vous êtes journaliste à la radio nationale RTNC, Kinshasa. Y a-t-il d'après vous peut-être un fait d'actualité important que nous avons peut-être oublié ou peut-être mis de côté faute de temps que nous aurions dû peut-être aborder dans cette émission?
Oui, je dirais que peut-être la dépréciation du franc congolais, ça continue. C'est un aspect très important qui joue à la situation économique du pays. C'est un aspect que la presse n'a pas tellement évoqué parce qu'aujourd'hui, le dollar est au niveau de 76-77.
Merci beaucoup, Claude Domoïcho-Kayembe. Nous avons également en ligne, depuis Bandundu-Ville, notre confrère Mukwakalombo. Bonsoir.
Bonsoir Claude Kanza.
Vous êtes journaliste correspondant de la radio-télévision Groupe L'Avenir, RTGA, à Bandundu-Ville, capitale provinciale du Bandundu. Peut-être qu'on a oublié un fait d'actualité important hein, dans la ville de Bandundu que nous n'avons pas sélectionné dans cette émission.
Non, en fait, Claude Kanza, c'est vrai que tout Bandundu tombe sur les médias qui relaient les informations depuis Kinshasa. Nous suivons de près toutes ces informations, elles sont à la une. Nous sommes très contents que nous puissions en parler parce qu'il vous faut aussi savoir l'opinion de la population de Bandundu par rapport à toutes ces situations qui font à l'heure l'actualité du pays à ce moment.
Nous passons directement à notre premier thème. C'est le deuxième jour du séjour du président de la République dans la ville de Mbandaka dans l'Équateur. Joseph Kabila est arrivé hier jeudi dans l'après-midi dans cette ville. Le chef de l'État est allé rendre visite aux sinistrés de la tempête qui a frappé le chef-lieu de la province de l'Équateur. Les habitants de Mbandaka lui ont réservé un accueil chaleureux d'après ce reportage de notre confrère Dominique Colombi qui a assisté personnellement à l'arrivée du numéro 1 de la RDC.
Ils étaient nombreux, les Mbandakais, qui ont réservé à Joseph Kabila un accueil chaleureux de l'aéroport au centre-ville. Un accueil autant couleur qui se justifie ce jeudi décrété journée chômée et payée en Mbandaka pour cette visite de compassion du chef de l'État à la population sinistrée par l'ouragan. La population a répondu nombreuse à l'appel des autorités provinciales et des personnalités politiques de l'Équateur venues de Kinshasa pour la circonstance. Au nombre de ces personnalités, le premier vice-président du Sénat, Edouard Mokolo-Akombo, les ministres de l'Environnement du gouvernement central, José Ndundo Bononge, des sénateurs et députés nationaux. Cependant, quelques Mbandakais, parmi lesquels les notables de la ville, n'apprécient pas de nombreuses demandes d'audience au chef de l'État sollicitées par les personnalités venues de Kinshasa. Ils estiment que ces personnalités qui résident dans la capitale devraient chercher à être reçues par le président de la République à Kinshasa plutôt qu'en Mbandaka, en vue de donner l'occasion aux différents groupes socio-professionnels locaux de poser leurs problèmes. Notons que c'est la première visite officielle de Joseph Kabila en tant que chef de l'État depuis son élection en 2006. Mais il était déjà venu le 30 juin 2003, fêter le 43e anniversaire de l'indépendance du pays au chef de l'Équateur. Par la même occasion, il avait rendu public la composition du gouvernement de transition Formule 1 plus 4. Mbandaka, Dominique Wolombi-Mongapangé, Radio Okapi.
Merci beaucoup Dominique. Et selon la ministre du portefeuille, Jeanine Mabunda, la première retombée de la visite du chef de l'État dans la ville de Mbandaka, c'est d'accueillir de nouveau le chef de l'État à Mbandaka après 5 ans. D'après elle, il fallait réchauffer cette relation qui s'était un peu distendue ou qu'on croyait distendue. Elle dit également qu'elle pense que les enfants de Mbandaka ont démontré hier jeudi au reste du Congo que le chef de l'État est le chef de l'État aussi bien à Bukavu qu'à Mbandaka. Et les retombées, d'après la ministre du portefeuille, c'est qu'il y a eu un appui du gouvernement central et aussi des autres frères et sœurs qui se sont penchés sur les problèmes que connaît notamment la ville de Mbandaka. Et elle dit également que les décisions en matière de travaux vont se concrétiser du fait de la visite du chef de l'État. Victoire Eyobi, un petit commentaire. Comment analysez-vous cette visite du chef de l'État Mbandaka, bien accueilli, hein, d'après notre confrère Dominique Wolombi?
Cette visite est la bienvenue, d'autant plus que la province de l'Équateur, c'est parmi les provinces pauvres de notre pays jusque-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de richesses dans la région de l'Équateur, mais qui reste jusque-là inexploité. Et cela a beaucoup de conséquences sur la vie des populations congolaises. Et pourtant, ces populations ont été parmi celles qui avaient donné leur voix au chef de l'État. Donc, c'était tout à fait normal que le chef de l'État...
Mais la plupart d'entre eux avaient voté pour le sénateur Jean-Pierre Bemba.
Oui, c'est tout à fait normal. C'est la démocratie, mais en tant que chef de l'État, c'est le père de la nation. C'est-à-dire les populations de l'Équateur également sont concernées par les bienfaits du renouveau qui doit arriver avec le nouveau pouvoir. Alors, ce qui est vrai, c'est que l'ouragan ou la tempête, c'était un prétexte de choix, d'autant plus que le chef de l'État se montre également très sensible aux problèmes des populations. On l'a vu à l'Est, il n'y a pas que l'Est, mais il y a également les autres provinces de notre pays qui méritent d'être prises en charge par le chef de l'État.
Alors, pourquoi ? Parce que, Victor Eyobi, nous on le voit ici à la télévision nationale, par exemple, lorsqu'il y a une calamité à l'est du pays, et c'est beaucoup d'ONG qui se mobilisent, beaucoup de personnalités politiques, mais apparemment, ça n'a pas été le cas pour la province de l'Équateur. Hein.
C'est un problème de non seulement de sensibilité, mais également d'information. Vous savez, l'est de la RDC, c'est pratiquement comme dans le voisinage de Kinshasa, à cause du flux des informations, mais cette fois-ci, le chef de l'État a démontré là qu'il porte dans son cœur ses populations, qu'il n'est pas éloigné d'eux, mais plutôt qu'il est très proche d'eux. De l'autre côté, il y a l'agenda des cinq chantiers. Vous savez, dans les cinq chantiers, il y a également la province de l'Équateur. Donc, c'est tout à fait normal de voir comment raviver cela, se rapprocher de ces populations, les écouter, parce qu'on verrait en vérité les véritables artisans du changement dans l'Équateur, ce sont d'abord ces populations, et le chef de l'État avait intérêt de se rapprocher d'eux pour les écouter et les engager dans la nouvelle voie.
Merci beaucoup, Victoire Eyobi. Mais je tiens aussi à signaler que Mme Jeannette Kabila avait envoyé de l'aide aux habitants de Mbandaka. Nous sommes également dans ce studio avec vous, Claude Molicho Kayembe. Comment interprétez-vous cet accueil des habitants de Mbandaka et puis le déplacement du chef de l'État Mme Janine Mabunda l'a dit, les relations étaient un tout petit peu tendues.
Tout à fait, vous vous souvenez de l'affaire qu'on a qualifiée, l'affaire Jean-Pierre Bemba, et ça avait constitué un obstacle pour que une grande autorité comme le chef de l'État puisse descendre à l'Équateur et déployer ses activités alors que le chef de l'État a été élu au suffrage universel direct.
Et c'est alors, après 5 ans. Hein.
Tout à fait, oui. Et maintenant, aujourd'hui, il y a un petit changement au niveau de la tête de la province du Bandundu. Il y a un autre gouverneur intérimaire.
De l'Équateur.
Tout à fait, au niveau de l'Équateur.
Vous avez parlé de Bandundu.
Ah non, de l'Équateur, merci. Il y a un gouverneur intérimaire au niveau de Mbandaka. Et c'est une nouvelle donne qui permettra que les choses marchent convenablement dans la province de l'Équateur. Au niveau de la population,
Comment expliquez-vous cet accueil chaleureux de la population de Mbandaka alors que certains analystes croyaient que peut-être la population de Mbandaka allait bouder cette visite?
La population de Mbandaka est dans les besoins. On a dit ici que la province de l'Équateur est une province pauvre comme d'autres provinces de la République démocratique du Congo. La population est dans les besoins. La population attend l'eau, l'électricité, les routes, comme partout ailleurs. Alors, elle a besoin de poser des questions au chef de l'État, et il ne faut pas qu'il y ait des politiciens qui descendent en Mbandaka pour aller encore interférer sur cette demande de la population pour puisse empêcher la population de s'exprimer. La population a besoin de s'exprimer au chef de l'État qui est le premier citoyen du pays pour que les besoins soient qu'on trouve des solutions sur les besoins exprimés par la population. C'est ça le problème, c'est ce qui justifie cette mobilisation, même si lorsque José Makela était là, les choses allaient se passer autrement. Mais aujourd'hui, avec...
Ça engage sur vous-même.
Oui, moi, j'ai dit que José Makela, avec son discours qu'il tenait, et il empêchait à ce que les choses marchent. Alors que la population était dans les besoins, la population attend l'exécution des cinq chantiers, aussi à l'Équateur, parce que les gens pensent que les populations de l'Équateur n'ont pas besoin de l'exécution des cinq chantiers.
Merci beaucoup, Claude Molicho Kayembe. Niro Moukoua Kalombo, je rappelle que vous intervenez à partir de la ville de Bandunouville, capitale provinciale de la province du Bandundu, et vous êtes correspondant de la RTGA là-bas. Quelle lecture faites-vous de la visite du chef de l'État en Mbandaka? Est-ce d'après vous une volonté d'ouverture du chef de l'État vis-à-vis de tous les Congolais?
Oui, Claude, vous le dites, c'est bien une volonté du chef de l'État d'atteindre un peu cette province. Parce que ça doit être un signal fort pour les chefs de l'État d'arriver dans cette partie du pays qui, vous savez, une partie qui est le chef même du rival aux élections présidentielles du chef de l'État. Et aujourd'hui, si il descend là sur place, ça montre déjà une volonté de collaborer avec cette population. Et puis, comme l'a dit les amis qui sont là, que les relations n'étaient pas en fait au beau fixe entre la population de l'Équateur et le chef de l'État. Les choses ont semblé croire que le chef de l'État n'aimait pas la population de l'Équateur, suite peut-être à l'arrestation de Jean-Pierre Bemba, suite au présumé même arrestation des originaires militaires, des officiers militaires de l'Équateur. Et puis, aujourd'hui, le même chef de l'État estime qu'il doit défendre là pour consoler les victimes de la calamité là. Je pense que c'est un signal fort. Mais alors, je pense que les fils et filles de Mbandaka doivent profiter de cette occasion pour saisir le chef de l'État tous les besoins qu'ils ont toujours gardés depuis Belirette. Et je pense que ça va résoudre beaucoup d'autres problèmes pour l'instant, la présence du chef de l'État dans cette partie du pays.
Ok, merci beaucoup Niro. Bon, nous allons conclure ce premier thème. Hein. Qu'est-ce que cette visite, Claude Mauricio Kayembe, peut rapporter à la ville, non seulement à la ville de Mbandaka, mais également à toute la province de l'Équateur?
Oui, ça peut beaucoup rapporter. C'est vrai que la province de l'Équateur, c'est une grande province.
Rapidement.
Et il y a des tendances politiques et les politiciens qui sont à ça sont en train de jouer pour leur faveur au niveau du terrain, c'est-à-dire ceux qui sont du nord de la Guadolité, ceux qui sont du sud, de l'est au ouest de la province de l'Équateur. Mais quand le chef de l'État arrive, il va écouter. Il va écouter les chefs coutumiers, il va écouter les différentes couches de la population, les jeunes, il va écouter les étudiants, il va écouter les gestionnaires de la cité à la place, de la place, pour avoir une idée sur l'intervention. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, les choses vont redémarrer avec cette paix qui arrive et à travers la République. Maintenant, il faut un programme tracé. Surtout qu'il y a une autorité, une nouvelle autorité à la tête de la province de l'Équateur. Il faut maintenant tracer un programme d'intervention parce que le temps presse. D'ici là, c'est la fin de l'échéance de 5 ans de Joseph Kabila à la tête du pays.
Rapidement, Victoire Eyobi, mais qu'est-ce que vous dites de la déclaration des députés nationaux originaires de l'Équateur qui ont se sont exprimés hier jeudi ici à Kinshasa, qui ont dit que, qui ont fustigé le silence du chef de l'État en ce qui concerne l'arrestation du sénateur Jean-Pierre Bemba, de certaines notabilités de l'Équateur, mais aussi de quelques militaires originaires de l'Équateur? Ils ont également décrié le fait que, d'après eux, ces députés nationaux de l'Équateur, que leur province était négligée en ce qui concerne les 5 chantiers.
Oui, je crois que ces déclarations les engagent. Ce qui est vrai, c'est que pour beaucoup d'entre ces questions-là, les chefs de l'État s'est toujours référé à la justice, notamment le cas Jean-Pierre Bemba, le cas de certains militaires et autres membres du MLC qui ont été arrêtés. Le gouvernement a eu également à donner des réponses à ce sujet.
Mais concernant les 5 chantiers, on entend beaucoup, certains ressortissants de l'Équateur disent qu'ils sont... Ils ne sentent pas vraiment la présence de ces 5 chantiers dans l'Équateur.
Oui, cet aspect des choses n'est pas ressenti seulement à l'Équateur, mais également à Kinshasa et dans les autres provinces, notamment dans la province orientale. Il y a déjà des routes qui commencent à être mises à la disposition des populations. Je crois que cette visite va permettre finalement de lancer les chantiers dans l'Équateur. Donc c'est là où les deux parties doivent s'entendre.
Niro Mukwakalombo, c'est avec vous qu'on va conclure rapidement ce premier thème.
Oui, Claude, vous savez qu'il y a aussi une autre paire d'opinion qui dit que le chef de l'État a bien fait de partir à Mbandaka, mais cette fois il est allé en retard. Parce que de tout le temps que il y a eu des calamités au niveau de l'Est, soit le chef de l'État envoie une équipe d'urgence, soit lui-même se rend sur le terrain, mais alors du côté de Mbandaka, vous rendez compte, il va un peu en retard. Vous voyez que peut-être on n'a pas pris en compte ou on n'a pas considéré, on n'a pas donné la valeur de cette province à temps, mais de toutes les façons, il est déjà là. Qu'il fasse ce qu'il doit faire, c'est ce que peut-être l'opinion des bandes de nous est en train de penser, et c'est bon, il approche cette population, mais il a fallu que ce soit à temps.
Merci beaucoup Niro. Nous allons passer maintenant à notre second thème. Il s'agit du départ du dernier soldat rwandais de la coalition d'avec les FRDC, coalition ayant mené les opérations militaires au Nord Kivu contre les miliciens Hutu rwandais appelés FDLR. Et les derniers soldats rwandais ont franchi la frontière de la Grande Barrière entre Goma et Gisenyi hier jeudi après-midi. Ils clôturent ainsi la série entamée mercredi après la cérémonie officielle, à l'issue de laquelle au moins 1500 d'entre eux sont rentrés au Rwanda. L'ambiance de ce départ avec notre confrère Jules Dalla qui était sur place à la Grande Barrière à Goma.
Oh, comme mercredi, c'est par le poste frontalier de la Grande Barrière entre Goma et Gitegni que les derniers soldats rwandais qui participaient aux opérations conjointes avec les RDC pour la traque des FDLR au Nord Kivu sont rentrés ce jeudi après-midi au Rwanda. Ils étaient des centaines, fusés en bandoulière, chantant et jubilant en Kinyarwanda. C'était à bord de 14 camions militaires de type Mercedes, d'autres à bord des jeeps militaires. Le général John Numbi, commandant des opérations, était à la Grande Barrière pour leur dire au revoir.
C'est le dernier troupe rwandaise qui vient de franchir la frontière. Nous les avons accueillis et les rendons les honneurs. Ils sont tous partis et vous pouvez avoir la latitude d'aller vérifier.
Seuls quelques officiers rwandais sont restés pour aider l'état-major général des opérations à élaborer les rapports ad hoc, a dit pour sa part James Kabarebe, chef d'état-major général des forces de défense rwandaises, qui se trouvait aux côtés de son homologue congolais. Quatre seulement, a précisé John Numbi. À l'issue de la cérémonie officielle mercredi, quelques 1500 soldats rwandais avaient traversé la frontière à pied et en pleine journée. Goma, Jules Ngala, Radio Okapi.
Merci beaucoup Jules Ngala. Victoire Iyobi, quelle est votre réaction après ces deux tâches, surtout après la polémique qu'a suscité cette intervention de l'armée rwandaise en RDC?
Je suis particulièrement très content du fait que cette opération a suscité, disons, une satisfaction générale, notamment au niveau des acteurs politiques, des acteurs également de la communauté internationale. Je voudrais ici, Claude, relever qu'il y a beaucoup de retombées, notamment sur le plan politique, avec la normalisation des relations entre le Congo et le Rwanda, la coopération entre les deux gouvernements qui est relancée avec un dynamisme nouveau. Vous savez, nous avons actuellement un ministre des Affaires étrangères qui a un carnet d'adresses très riche et qui a eu la facilité d'approcher l'autre partie et d'y décanter beaucoup de questions. Il y a également la fin du soutien actif aux forces négatives des deux côtés. Vous savez, le Rwanda nous reprochait le soutien à FDLR et de l'autre côté, nous reprochait au Rwanda de soutenir le CNDP. Il y a également le rétablissement de l'autorité de l'État. Alors, sur le plan économique, je relève là la libre circulation des populations de biens avec la suppression de barrières, des taxes illégales au Nord Kivu, la possibilité actuellement également pour les investisseurs de venir dans cette partie du pays qui semblait être exclue du renouveau politique dans notre pays. Il y a également la relance des relations commerciales entre les pays de la région. Vous savez, on parle beaucoup du retour à la CPGL, mais également de la réouverture de la frontière au niveau de Bulangana. Vous savez, les frontières pour notre pays, ça rapporte beaucoup, mais ça permet également de contrôler les flux, non seulement de biens qui entrent, mais également des personnes qui entrent dans le pays pour éviter les infiltrations. Sur le plan social, désormais, nous savons qu'il y a à la fin des mouvements de masse des populations. On a compté dénombré environ 2 millions de personnes qui étaient déplacées pendant les derniers affrontements depuis août jusqu'à maintenant, mais également le retour des populations dans leur milieu d'origine. Enfin, sur le plan militaire, Claude, il y a la destruction des quartiers généraux, des arsenaux militaires des rebelles, la reddition des hommes en armes.
Mais ce n'est pas, ils n'ont pas détruit toute la machine militaire des FDLR, hein?
Mais pas toute la machine, mais au moins il y a des points sensibles ainsi que les arsenaux qui ont été détruits et de ces côtés-là, il y a lieu de s'apaiser.
Claude Moulis au KMB, je vous rappelle que vous êtes journaliste à la radio-télévision nationale RTNC Kinshasa et Victor Iyobi qui vient de parler, directeur de publication du magazine économique Entreprendre qui paraît ici à Kinshasa. Est-ce que le tableau qui vient d'être peint par notre confrère Victoire Iyobi n'est pas trop optimiste?
Voilà, je disais que je pourrais dire que
juste avant de répondre, je voudrais donner quelques petits détails. À la fin de ces opérations conjointes RDC Rwanda contre les FDLR, il y a eu au total 4000 rapatriés, dont 300 combattants.
Oui, moi je pense que les gens parlaient des pourcentages. Les gens disaient que c'est 90%, d'autres 85% de réussite. Ici, c'est ici où il faut replacer les débats sur, ou recentrer les débats sur la responsabilité des institutions. Le gouvernement en place, le gouvernement Mouzito, a reçu de l'Assemblée nationale une mission très très précise.
lorsqu'il a été investi par l'Assemblée nationale, de pacifier l'Est, d'exécuter les cinq chantiers de la République, de penser au social et autres. Et aujourd'hui, ces choses faites, on a actionné la machine pour qu'il y ait paix dans l'Est, et les gens reprochent au gouvernement de la forme utilisée. Alors que nous, même en journalisme, on nous a appris ce qu'on appelle les secrets de la défense, c'est-à-dire toutes les stratégies militaires ne peuvent pas être dévoilées. Il faut vraiment compter sur les résultats quand on mène une stratégie militaire. Et c'est ce qui a été fait par le chef de l'État, et les résultats sont là.
Aujourd'hui, est-ce que c'est interdit au Parlement de savoir un peu qu'est-ce qui a été, comment a été conclu cet accord, parce que c'est quand même des représentants du peuple, hein, pour donner aussi des explications à leur base.
Tout à fait, mon confrère Claude. Vous savez que le Parlement était en congé, les opérations commençaient le 20 janvier, et le Parlement a terminé la session extraordinaire le 15 janvier.
Il y en a qui ont demandé une session extraordinaire du Parlement, ce sujet qui a posé problème.
Et il fallait attendre cette session extraordinaire, le chef de l'État n'a pas opposé, et il fallait déposer, que les pétitionnaires déposent d'abord au niveau du bureau, et ils attendaient, et le président de l'Assemblée nationale n'était pas là, mais cela ne pouvait pas empêcher que le gouvernement, parce que les gens oublient que le chef de l'État aussi est membre du gouvernement. Il préside également au Conseil des ministres, il préside également le Conseil des ministres, il fait prendre les décisions au nom du gouvernement. C'est ça que les gens oublient, même si lui-même est le président de la République, est toute une institution. Le président de la République a approché les Rwandais, parce que nous devons vivre ensemble avec le Rwanda, et le résultat est là. Pourquoi les gens s'agitent alors qu'il fallait attendre les résultats? Le résultat est positif, très positif même, et si les députés doutaient de ces opérations, ils pouvaient attendre la convocation de la session ordinaire le 15 mars prochain pour interpeller le gouvernement sur l'échec, alors qu'aujourd'hui on parle de réussite. C'est ça le problème, il ne faut pas anticiper les choses. Il y a bien sûr le principe de la collaboration entre institutions, mais aussi au niveau des responsabilités. Chaque institution doit faire ce que la Constitution lui dit de faire. Et l'Assemblée est là pour contrôler l'action du gouvernement. Et à un moment opportun, il fallait attendre un moment opportun, c'est-à-dire la session ordinaire qui s'ouvre le 15 mars prochain, et pour interpeller le gouvernement, pour dire que voilà, vous avez signé un accord avec le Rwanda pour mettre fin aux opérations des FDLR dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et voilà, ça a échoué. Maintenant, on vous interpelle.
Est-ce que ça sera encore possible avec la probable démission prochaine de M. Vital Kamerhe? Nous avons aussi en ligne, depuis la ville de Bandundu, Niro Mukwa Kalumbo, journaliste correspondant de la RTGA à Bandunduville, capitale de la province du Bandundu. Niro, mais on a entendu même pendant l'émission Dialogue en Congolais de cette semaine, un politique congolais qui a dit non, mais comment se fait-il que cette opération s'est déroulée tout au long des vacances parlementaires, les opérations conjointes avec le Rwanda et puis même le retrait des troupes rwandaises, tout ça s'est déroulé pendant les vacances parlementaires.
Oui, vous savez qu'à Bandundu, pratiquement toute la population a des effets sur Kinshasa et qu'elle suit de près la situation politique du pays à partir de Kinshasa. Et la situation sur les retours de militaires rwandais, en fait, la population ne comprend vraiment pas les détails de la chose. Elle se pose trop des questions pour savoir ces militaires sont entrés d'abord quand, ils étaient combien, dès qu'ils ont fait un bon travail avec les militaires congolais, les FARDC. Mais en fait, ils sont entrés par où et ils étaient combien? Parce qu'aujourd'hui, là, selon les différentes opinions, on nous brandit qu'ils étaient au temps, ils viennent de rentrer tous, pratiquement. Moi-même, j'ai suivi le général Mundi, il a parlé que nous sommes restés avec 4 officiers rwandais qui sont restés pour finaliser les travaux de signature pour présenter au gouvernement et au chef d'État des deux pays.
Le rapport ad hoc, sur ces opérations. C'est le rapport ad hoc, pour aider à la rédaction du rapport ad hoc de ces opérations.
Oui, c'est très bien. Alors, c'est là où on se pose trop de questions. Finalement, ils étaient combien, ceux qui étaient venus, pour qu'aujourd'hui qu'on dise qu'ils étaient 1500, ils sont rentrés. Alors, au total, combien sont entrés et par où? Donc, quelque part aussi, je pense qu'il y a, selon les différentes opinions, les gens disent que l'opération a été bien menée et on félicite les chefs de l'État. Alors, quelque part aussi, on dit quand même Andy Souros, mais pourquoi tout s'est fait en secret, même si c'était à notre faveur? Mais il semble que le gouvernement rwandais avait informé son parlement qu'il y a des situations au Congo.
C'était après les opérations. C'était après les opérations que le gouvernement rwandais a informé son parlement.
Oui, alors la population, pratiquement, ou les différentes opinions pigent un peu cette coalition, laisse attendre aussi savoir que, au moins cette fois-ci, dès que nous avons des résultats palpables et positifs sur le terrain, les FDLR sont réduits, mais on ne comprend pas, on a peur de Rwandais, parce que vous savez que la population congolaise a un mauvais souvenir de l'unité au Rwandais. Est-ce que s'ils ne sont pas venus 1500, ils sont venus plus de 1500. Ceux qui sont restés pour quelque chose.
Mais c'est vrai. Niro, excusez-moi, comment jugez-vous cette opération, hein? On a parlé ici, mes souvenirs sont bons, hein, d'à peu près 6500 Rwandais, réfugiés rwandais qui étaient encore ici, parmi lesquels des FDLR. Et aujourd'hui, on parle de 4000 qui ont été rapatriés, dont 300 combattants FDLR. Vous pensez que l'opération est une opération réussie?
Donc, je peux donner mon point de vue. Mais vous savez que nous, journalistes, nous sommes, quand nous parlons à la place de la population. Et quand nous voyons, nous voyons aussi à la place de la population. Alors, cette population qui nous contrôle.
Mais les journalistes ne sont pas des députés nationaux. Hein.
Des choses, c'est clair, des choses. Alors, ce sont peut-être ces déclarations-là que nous sommes en train de briser ici. Pour la population, elle pense que, pour certaines personnes, que le départ des militaires rwandais. Est précipité. Il a fallu qu'il reste jusqu'à la fin des opérations, jusqu'à exterminer les 6500 FDLR présents.
Merci.
Mais alors, pourquoi ils ont fait rentrer? Donc, on a cru que 4500 sont rapatriés et 300, je ne sais pas ce que tu as dit là.
300 combattants.
Alors, il reste environ 1000 et quelques. Et ces 1000 et quelques FDLR qui sont au Congo. Comment est-ce qu'on va mettre fin à leurs activités?
Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Niro. Dis-toi, finalement, est-ce que l'opération, d'après vous, est un succès dans la mesure où sur les 6500, près de 6000 combattants dont on parlait il y a quelque temps, on dit que 4000. Il y a 4000 rapatriés, dont 300 combattants. Et la question aussi, c'est aussi, en ce qui concerne le Sud Kivu, parce que là-bas, il n'y a pas eu d'opération. Il y a encore des FDLR là-bas. Nous recevons des messages de nos auditeurs, par exemple, un de l'Emera qui nous a dit qu'il y avait des FDLR là-bas, à l'Emera. Qu'est-ce que vous en pensez? Les opérations ont été précipitamment interrompues et devraient se poursuivre également au niveau du Sud Kivu?
Je crois que sur le plan de la symbolique, c'est une très très grande réussite, vous savez. Nous avons passé beaucoup de temps à nous quereller autour de la question. Mais maintenant, au moins, les deux gouvernements regardent les choses dans la même direction. C'est-à-dire tous sont d'accord qu'il faut mettre fin à ces mouvements rebelles qui sont en train de semer l'insécurité à l'Est. Alors, dans un premier temps, on les a éloignés des zones sensibles, c'est-à-dire frontalières et autres. Il y a certains qui sont réfugiés un peu beaucoup plus loin dans les territoires congolais. Mais ce qui est vrai, c'est que ce sont des opérations qui doivent se poursuivre. Pas seulement avec le Rwanda et la RDC, mais également avec l'apport de la communauté internationale, parce que la partie congolaise ne saura pas faire ce travail seul, d'autant plus que nous sommes en train de réformer notre armée. Nous avons besoin d'un soutien réel, effectif de la communauté internationale pour aller jusqu'au bout de cette opération.
On accorde aussi 30 secondes à Claude. Est-ce que cette opération avec le Rwanda devrait se poursuivre aussi au niveau du Sud Kivu, puisqu'il y a aussi des FDLR encore là-bas?
Et tout à fait, cela va se poursuivre. La Monique
pas avec le Rwanda.
La Monique est d'accord d'appuyer les forces armées de la République démocratique du Congo pour essayer de nettoyer, parce que
on a la capacité militaire de le faire.
Oui, la Monique a la capacité militaire et sur le plan
logistique. La Monique va appuyer
les gouvernements congolais.
Oui, sur le plan logistique. Tout mais ce ne sont pas les soldats de la Monique qui iront se battre.
C'est un appui très très considérable de mon confrère, que quand on appuie les forces armées sur le plan logistique, c'est vraiment très important pour une opération militaire. Et comme les FDLR qui sont dispersés à travers la forêt ne constituent plus un danger parce que c'est difficile de se reconstituer, je pense que, en tout cas, on va les démanteler et les mettre hors d'état de nuire.
Merci beaucoup, Claude. Terminons cette tribune de la presse avec notre troisième et dernier thème, la démission cette semaine de quelques membres du bureau de l'Assemblée nationale, après que l'Alliance et la majorité présidentielle ANP aient retiré sa confiance au bureau de l'Assemblée nationale, je disais. Et nous apprenons que le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a accepté décider de démissionner, mais seulement à l'ouverture de la session ordinaire du 15 mars prochain, et ce devant la plénière de l'Assemblée nationale. Et parmi les autres membres du bureau qui ont démissionné, il y a notamment les questeurs de l'Assemblée nationale, Bati Lukwebo, qui l'a fait hier jeudi sous le coup de 20h, et il y a eu aussi le premier vice-président du bureau de l'Assemblée nationale, M. Christophe Lutundula, et Mme Talaba, questeur adjoint. Nous allons justement écouter le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Christophe Lutundula, qui a justifié sa démission au micro de notre confrère Emmanuel Imbanda.
Depuis le dimanche, le président de la République a demandé à tous les membres du bureau appartenant à la majorité de déposer leur démission.
Question d'abord à Niro, depuis Niro Mukwakalombo, depuis le Bandundu. Comment réagissez-vous face à cette démission des quelques membres de l'Assemblée nationale à la demande de leur plateforme, l'Alliance de la majorité présidentielle, qui a retiré sa confiance au bureau de la Chambre basse du Parlement?
Claude, en fait, je voudrais vous dire que nous, quand nous parlons à la place de la population.
Mais attention, il faut faire attention parce que les journalistes ne sont pas des députés nationaux qui parlent à la place de la population. Les journalistes observent, c'est l'œil, ce sont les oreilles de la population, mais dire que vous parlez au nom de la population, ça je me réserve.
Ok. Nous sommes les oreilles de la population. Merci beaucoup. Donc, en fait, pour cette situation de la démission de membres de la majorité au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, je pense que dans tout parti politique organisé, il y a des solutions, il y a la discipline du parti qui est privilégiée. Lorsque les partis estiment qu'il faut passer sur une telle direction, tout le monde voit sur la même direction. Et quand il y a ceux-là qui, les récidivistes, qui ne veulent pas observer la chose de cette façon-là, moi je pense qu'il n'y a qu'à endosser cette responsabilité. Donc pour l'instant, là, si il est vrai que la direction de l'ANP a demandé à tous ceux qui sont de l'ANP, membres du bureau, de démissionner, moi je ne vois pas pourquoi ils doivent réfugier.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Victoire et Yobi. Mais finalement, qu'est-ce que l'Alliance de la majorité présidentielle reproche au bureau de l'Assemblée nationale?
Disons que c'est le problème est beaucoup plus lié au président du bureau de l'Assemblée nationale plutôt qu'à à l'ensemble de membres de ce bureau. Et de ce côté-là, je voudrais ici relever un problème réel au niveau de la classe politique congolaise. C'est un problème d'absence de lignes idéologiques, mais également de mécanismes de prévention et de résolution des conflits qui peuvent subvenir. Je vois très mal que deux membres d'un parti, surtout des responsables, entrent en contradiction sur la place publique. C'est ce que l'AMP nous a démontré depuis quelques temps et qui a amené pratiquement à tous ces problèmes que nous connaissons. Il y a un problème de gestion des ambitions, mais il y a également un problème de contradiction qui ne semble pas bien passer au sein du parti. Vous savez, c'est tout à fait normal qu'au sein de la coalition, il y ait des points de vue divergents, mais quand certaines choses sont rapportées sur la place publique, moi je crois qu'il y a lieu pour les uns et les autres de prendre leurs responsabilités. Alors, je crois que de ces côtés-là...
Résumez-vous, on a plus beaucoup de temps.
Oui, je crois que de ces côtés-là, Vital Kamerhe a beaucoup perdu, et c'est tout à fait normal qu'il prennent ses responsabilités.
Claude Moulichoukaindo, est-ce que vous pensez que Vital Kamerhe a manifesté un peu vite ses ambitions pour aujourd'hui subir ce qu'il est en train de subir? Est-ce que vous pensez qu'il est allé un peu trop vite?
Moi, je pense ici, en tant que journaliste, nous sommes en train d'analyser les faits d'actualité. Et on ne peut pas empêcher quelqu'un d'avoir des ambitions politiques. Vital peut-être a des ambitions, les gens en parlent, et c'est vrai, et on ne peut pas lui empêcher. Mais le problème, c'est au niveau de la crise au sein de l'ANP, la crise au niveau du PPRD. Et c'est ça le problème. Est-ce que cette crise, il est opportun aujourd'hui d'attiser le feu, il est opportun aujourd'hui de créer, de susciter cette crise-là? parce que l'AMP, c'est une plateforme politique pour soutenir le chef de l'État. Et moi, je pense que ce sont les ambitions politiques qui parlent autour des gens qui animent l'AMP, qui animent le PPRD. Mais en 2011, lorsque Joseph Kabila a décidé de briguer notre mandat de 5 ans à partir de 2011, et avec cette crise, moi, je vois mal si le président peut vraiment présenter un bilan positif en 2011. Parce que c'est une crise inutile. Moi, je qualifie ça. Ça, c'est mon analyse à moi. Je qualifie ça, c'est une crise inutile. Et on pouvait surpasser cela pour le bien de la famille politique du chef de l'État. Et pourquoi en envenimer la situation? Quand même, il peut déclarer cela et ça peut. Les gens peuvent se pardonner et pour voir l'objectif. Parce qu'aujourd'hui.
Vous voulez dire par là que cette crise au sein de l'AMP fragilise cette plateforme politique au regard des prochaines élections en 2011?
Tout à fait. Parce que le chef de l'État a des ambitions pour briguer 2011. Même si les autres ont aussi des ambitions, mais ce n'est pas au portée de créer cette crise pour essayer de fragiliser les actions du chef de l'État.
Mais
il y a des gens qui parlent déjà d'un autre gouvernement d'Union nationale, et ces gens-là, moi, c'est mon analyse, risquent de régner le chef de l'État en 2011 quand il va présenter le bilan. Et c'est lui que la population va voir que nous avons voté Joseph Kabila au suffrage universel direct. Qu'est-ce qu'il nous a donné en retour comme justement le programme de 5 chantiers? C'est pas le problème.
Merci beaucoup.
Pourquoi envenimer une situation inutile?
Niro, on va peut-être finir avec vous, hein, parce qu'il nous reste très très peu de temps. Mais que pensez-vous, comment voyez-vous l'avenir de l'Assemblée nationale sans Vital Kamerhe? En 30 secondes.
Vous savez que Vital Kamerhe, il est de l'AMP, précisément du PPRD. Aujourd'hui, s'il est désavoué par le PPRD qui est dans la majorité, je pense qu'il n'a pas à choisir sa chemin. Il va sortir par la porte qu'il est entré. Et puis, par rapport à la situation qu'il va prévoir au sein de l'Assemblée provinciale, je pense qu'il y a un règlement donc, d'intérieur qui régit l'Assemblée nationale. Donc, ces questions qu'on s'est rachetées à ces statuts, à ces règlements, qu'on puisse voir qu'est-ce qu'il faut faire en cas de ceci, cela.
Merci beaucoup.
Les pareilles situations ne sont pas une.
Merci, merci.
Ça avec,
Malheureusement, on est obligé de conclure cette émission. Donc, c'est ici que prend fin cette tribune de la presse. Merci à nos confrères Niro Moukoua Kalombo, correspondant à Bandunubi de la RTGA, Victoire Iobi, directeur de publication du magazine économique Entreprendre, et Claude Molicho Kaibé de la radio nationale RTNC Kinshasa pour leur participation à cette émission. Alain Goy était à la technique, Guy Maté à la réalisation. Merci à toute l'équipe qui vous l'a préparé, Kéline Kouté, Magali Kabalé-Banta et Aurélie Moupapa, notre stagiaire. Bon week-end chez vous, tout en restant branché sur le programme de Radio Okapi.
Okapi.